de Tadej Valjavec, un Slovène, et d'un Français, Sandy Kazar. Ces trois hommes viennent de basculer dans la vallée de la Maurienne et possèdent un peu plus de 2 minutes d'avance sur un groupe d'attaquants et un peu plus de 4 minutes d'avance sur le peloton maillot jaune. Rien pour l'instant de décisif, évidemment. Les ténors du peloton devraient en découdre dans les prochaines ascensions, notamment le col du Télégraphe et la montée finale vers la Toussuire. La route du Tour Bernard Cantin, Germain Treille, France Inter.
Alors bien sûr, sur le bord des routes, comme toujours lors d'une étape des Alpes, les spectateurs admirent et encouragent les cyclistes. Aujourd'hui, ils auront aussi une autre occupation, apercevoir Lance Armstrong, l'ancien vainqueur à 7 reprises de la Grande Boucle, suit l'étape dans la voiture de son ancienne équipe Discovery Channel. Il y avait eu Les yeux dans les bleus, le documentaire de 98 sur l'équipe de France de football durant la Coupe du Monde. Pour 2006, ce sera The Substitute, le remplaçant en français, un film tourné au caméscope par Vikash Dorasso. Dorasso n'a joué que 17 minutes durant la Coupe du Monde, ce qui lui a laissé du temps pour filmer ses frustrations. Un film sur une idée de l'un de ses amis, l'auteur-compositeur Fred Poulet.
L'idée du film, c'est que je donne les caméras Super 8 à Vikash et que lui filme de l'intérieur et que moi je filme de l'extérieur et qu'on monte ces deux visions de l'événement. C'est quand même, Vikash était un pilier de l'équipe qui s'est qualifié pour la Coupe du Monde et puis pendant la compétition, il y a l'arrivée de Ribéry plus ou moins à son poste, plébiscité par la France du football avec l'épisode de France au Stade de France où on réclame Ribéry et où on siffle Vikash. Ensuite, il joue peu, puis il joue de moins en moins. Et puis, donc évidemment, c'est pas quelque chose qui se vit très facilement. C'est facile à vivre pour personne et d'autant moins pour lui qui avait quand même une relation, on va dire, peut-être privilégiée avec l'entraîneur ou sinon privilégiée, au moins quelque chose d'assez profond et solide. Il y a l'aspect sportif et aussi l'aspect humain qui a été engagé et qui finalement finit par constituer la narration du film.
Fred Poulet qui espère maintenant que son film pourra sortir au cinéma l'an prochain. C'était une interview réalisée par Valérie Menu. 13h32 sur France Inter. Bon après-midi. Je vous dis à ce soir, l'heure de retrouver maintenant Patrice Gélinet pour une nouvelle diffusion de 2000 ans d'histoire.
Bonjour, aujourd'hui un des policiers les plus redoutables et les plus puissants du XXe siècle, John Edgar Hoover. A fait plus de mal aux États-Unis que Joseph Staline. Norman Mailer. Dominant d'histoire. Le jour de la mort de Hoover, le 2 mai 1972, le président Nixon organisa pour lui des funérailles nationales. Un privilège réservé au chef d'État pour celui qui, pendant 48 ans, à la tête de la police fédérale américaine, avait fait du FBI une machine policière sans équivalent dans l'histoire. C'est un géant américain et un des plus grands flics du monde, écrivait le Washington Times, au moment où 20 000 personnes défilaient devant le cercueil de Hoover, recouvert de la bannière étoilée, et solennellement exposé au Capitole. Parce qu'il savait tout sur tout le monde, et jusqu'au plus haut niveau de l'État, cet homme aux millions de fiches était intouchable. Utilisant avec le FBI des méthodes policières que n'auraient pas désavoué la Gestapo ou le KGB, Hoover était aussi puissant que les 8 présidents des États-Unis qu'il a à la fois servi et espionné. Depuis Coolidge, qu'il avait placé à la tête de la police fédérale au début des années 20, jusqu'à Nixon, qui, au lendemain de sa mort, lui rendait hommage en 1972.
John Edgar Hoover était un géant. Il a fait du FBI la meilleure police du monde. John Edgar Hoover a fait du bien à notre pays. Il a personnifié l'intégrité et le patriotisme.
Marc Duguin, bonjour.
Bonjour.
Alors c'était Nixon, le dernier des 8 présidents des États-Unis sous l'autorité desquels Hoover a dirigé pendant 48 ans le FBI, si bien d'ailleurs que le roman que vous venez de lui consacrer chez Gallimard, La Malédiction d'Edgar, c'est un peu toute l'histoire des États-Unis au XXe siècle. Mais alors, un demi-siècle quand même à la tête de la police fédérale, c'est un peu comme si au fond un ministre de l'Intérieur français était au gouvernement depuis 1955, hein, si on y réfléchit bien. Comment expliquer cette longévité à la tête du FBI?
Je crois que ça tient d'abord aux qualités personnelles de Hoover, à sa grande compétence, en tout cas pour la partie purement policière, mais ça tient aussi essentiellement au fait qu'il tenait tout le monde et qu'il souhaitait avant tout perdurer dans son pouvoir. Et comme la seule chose qui l'intéressait dans sa vie, c'était d'être à la tête du FBI et qu'il n'imaginait pas pouvoir faire autre chose, il a tout fait pour s'y maintenir. Et y compris le chantage sur toute personne qui aurait souhaité mettre fin à sa carrière.
C'est-à-dire des présidents. Au fond, il est tenu un peu par.
Au fond,
par,
les présidents
et sur eux.
Les présidents et les ministres de la justice.
Ouais,
parce
ouais.
que s'il y a eu 8 présidents qui l'ont chapeauté, il y a eu aussi, je crois, 18 ministres de la justice. Et aucun n'a jamais réussi à le dessouder.
Même ceux qui avaient des raisons de lui en vouloir, je pense par exemple à Robert Kennedy, au frère du président Kennedy.
Même Robert
Kennedy.
Pas.
Oui. Alors, il y a aussi tout simplement le fait que pour y rester aussi longtemps, il fallait qu'il y entre très jeune. Et c'est alors qu'il a 29 ans à peine, je crois, qu'il prend la direction en 1924 du tout récent FBI. Il faut rappeler que cette institution qu'on connaît tous, ne serait-ce que par des films policiers, elle est assez récente dans l'histoire des États-Unis, et que jusqu'au XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, les pouvoirs de police étaient assez assuré, soit enfin par les autorités locales, que ce soit les gouverneurs, que ce soit les maires.
C'est la grande idée du FBI, c'est de faire une police fédérale, c'est-à-dire une police qui a compétence dans tous les États. Puisque jusque-là, il y avait des polices qui avaient compétence dans chacun des États. Et dès qu'on franchissait une frontière,
on était à l'abri.
Donc il y a eu d'abord la définition de crimes fédéraux, en particulier l'enlèvement ou le fait, par exemple, de transporter une prostituée d'un État à un autre, c'est devenu un crime fédéral. Et progressivement, Hoover a fait voter un arsenal de lois fédérales qui ont créé, en fait, le FBI pour faire respecter ces lois.
Et pour les faire respecter avec des agents, qui s'appelaient les G-Men, hein, les hommes du gouvernement, qui vont se distinguer en arrêtant ou en éliminant les plus grands gangsters américains des années 1920 et 1930.
Nous sommes le FBI, nous avons un mandat de perquisition pour cet appartement.
Public enemy number one was leaving a North Side theater.
John Dillinger.
L'ennemi public numéro 1, John Dillinger.
Babyface Nelson.
Babyface Nelson.
Machine Gun Kelly, who coined the term G-Man.
Mitraillette Kelly, qui a inventé le mot G-Man. Tous tués ou capturés par le FBI.
Some of whom died, leading the outlaws down.
Et c'était le palmarès impressionnant du FBI et de Hoover dans les années 20 et 30, Marc Duguin. Alors là, ça l'a rendu extrêmement populaire, et le FBI et celui qu'il dirigeait. Il aimait d'ailleurs beaucoup mettre en scène, là ce sont des extraits d'actualité de l'époque, mais il y a eu aussi des tas de séries policières qui mettaient en avant le rôle du FBI et de son chef.
Oui, parce qu'il c'est un artisan de la lutte contre le banditisme au moment où le banditisme connaît une croissance exceptionnelle avec la grande crise de 1929. Et de tous ces malfaiteurs qui prétendent agir au nom du petit peuple lésé par cette crise du grand capital. Et donc là, il a montré une efficacité envers ces rebelles remarquables qui a assuré son autorité. Et effectivement, il a commencé à comprendre le rôle des médias et de la radio à l'époque, puisque la télé n'existe pas. Et il était assez présent avec son débit caractéristique, qui était un débit extrêmement rapide, qui ne permettait jamais aux journalistes de l'interrompre.
Ah, il faisait exprès.
Il faisait exprès, pour éviter qu'on puisse l'interrompre.
Mais très soucieux.
Et lui poser de mauvaises questions, ouais. Surtout. C'est ça qui craignait le plus.
Mais très attaché à l'image qu'il pouvait avoir. D'ailleurs, on dit que plus tard, la série des Incorruptibles, hein, qui va mettre en scène Elliot Ness, le FBI, contre les gangsters, c'était une commande du FBI, je crois.
Oui, c'était
encouragé par le FBI,
qui était dans ce processus de Hoover de sacralisation du FBI, c'est-à-dire de sacralisation d'une autorité fédérale américaine.
À laquelle il donne des moyens absolument considérables, très modernes, hein, des moyens d'enquête qui étaient relativement nouveaux pour l'époque. Il y avait des analyses de sang, de cheveux, d'empreintes digitales, d'armes et puis aussi de munitions, mais aussi, beaucoup moins brillant, la délation à laquelle les Américains étaient encouragés.
Federal Bureau of Investigation is as close to you as your nearest telephone.
Le FBI est aussi proche de vous que votre téléphone. Il vous appartient. Votre numéro au FBI, 717. Je vous passe, M. Hoover.
Just one moment, I'll connect you with Mr. Hoover.
I hope that this presentation...
J'espère que cette annonce vous fera mieux connaître et comprendre votre FBI.
Of your FBI. FBI. We are as close to you as your telephone.
Alors l'arrestation et l'élimination de gangsters, Marc Duguin, ça a rendu le FBI très populaire, mais à quel prix? Parce que là, il y a la face évidemment plutôt sombre du FBI, c'est-à-dire la délation, les écoutes, les filatures. Ça, c'était monnaie courante au FBI, déjà, et ça allait rester.
Oui, comme toujours dans ce genre de comportement, il y a le comportement qui est donné au public, c'est-à-dire la face lumineuse, hein, qui est... Une relative et avérée efficacité en termes de lutte contre le banditisme. Et la face cachée, la face sombre de l'époque Hoover, c'est la mise en place d'un système de fiches sur tout le personnel politique américain, la surveillance de leur vie jusqu'au plus profond de l'intimité, et en particulier avec des écoutes téléphoniques, mais aussi des écoutes à l'intérieur des maisons, des écoutes partout. Le FBI écoutait les gens, ce qui fait que Hoover était l'homme qui savait tout ce qui se passait aux États-Unis pendant toute la durée de son mandat quasi éternel.
Est-ce qu'elles étaient légales, ces écoutes?
Alors, au départ, les écoutes ne sont pas légales. C'est Roosevelt, en fait, qui rend ces écoutes légales dans la surveillance du territoire contre les intérêts étrangers, en particulier les Russes et les Allemands au moment de la montée du fascisme. Et en légalisant les écoutes de cette façon, Hoover, lui, comprend l'intérêt qu'il peut en tirer. C'est-à-dire que sous cette façade de l'égalité, il va commencer à développer, lui, un système d'écoute pour son propre compte, donnant à Roosevelt, quand ça l'intéresse, quelques bribes de conversations écoutées qui peuvent le servir politiquement. Là, en fait, c'est Roosevelt qui le lance dans ce système d'écoute.
Quand vous dites donnant à Roosevelt des renseignements, il y a une chose qui m'a sidéré dans votre livre, qui est un roman, Marc Duguin. Mais est-ce qu'il est exact que Roosevelt, c'est Hoover qui a appris à Roosevelt que sa femme le trompait?
Oui, enfin, il l'a appris.
En
tout cas, Roosevelt lui en a beaucoup voulu, et il est probable que si Roosevelt n'était pas mort d'une hémorragie cérébrale, hein, en plein mandat, il est probable qu'il serait débarrassé de Hoover. Mais Hoover a toujours eu de la chance. Et il est vrai que Hoover a enquêté sur la femme sur Eleanor Roosevelt, la femme du président Roosevelt, parce qu'il considérait que c'était une gauchiste, en plus, il considérait que c'était une lesbienne léniniste, et qu'à ce titre, elle devait faire l'objet d'une surveillance. Et donc, comme elle avait un amant plus jeune qu'elle, il la faisait écouter jusque dans sa chambre d'hôtel. Mmh. Et c'est lui, effectivement, qui a amené les écoutes à Roosevelt, qui a pris une colère monumentale et qui a envoyé l'amant de sa femme sur le front japonais.
Mmh. Il badinait pas avec ce qu'on pourrait appeler la morale sexuelle. Il avait là-dessus des idées bien arrêtées, Marc Duguin. Il détestait notamment l'homosexualité, alors que lui-même, dit-on, était un homosexuel qui ne voulait pas évidemment révéler son homosexualité, mais qui n'arrivait pas à l'assumer. Il y a un historien américain qui s'appelait Anthony Summers qui disait le puritain conservateur cachait un homosexuel honteux. Alors là, justement, c'est important parce que c'est un des personnages, c'est même le héros de votre livre, c'est celui dont vous avez écrit, vous avez pris la plume pour écrire ses mémoires, enfin c'est en tout cas le principe même de votre roman. C'était Clyde Tolson qui était son adjoint, son bras droit, le numéro 2 en quelque sorte du FBI, et qui était en même temps son amant.
Tolson était l'amant de Hoover, numéro 2 du FBI, et il lui a survécu 3 ans. Et ils étaient installés dans une relation qui était une relation homosexuelle, même si chacun vivait chez soi. Et évidemment, c'est la grande contradiction de Hoover. Et c'est ce qui explique qu'il ait souhaité tenir les autres par un système d'écoute et les prendre en otage. C'est qu'il ne voulait pas que son homosexualité soit révélée, puisque lui se considérait comme le représentant du puritanisme américain dans la vieille tradition victorienne. Et c'est là toute l'ambiguïté de Hoover. Et c'est la clé pour comprendre Hoover. C'est cette... cette contradiction profonde.
Et pour comprendre une chose qui est très étrange, on a remarqué que Hoover, qui avait réussi à s'en prendre au grand gangstérisme des années 20 et 30, à s'en prendre, nous le verrons dans quelques instants, aux communistes pendant la guerre froide, a laissé assez tranquille finalement, et notamment après la Deuxième Guerre mondiale, la mafia. Et on dit, et justement, Anthony Sumners, mais vous-même, vous approuvez, enfin vous allez dans le même sens, on dit qu'au fond, la mafia, Hoover faisait chanter tout le monde, mais la mafia était capable de faire chanter Hoover grâce à des photos compromettantes prouvant qu'il était homosexuel.
Il est de mon point de vue quasi certain que la mafia, à travers Lansky, qui était un de ses patrons, tenait des photos compromettantes de Hoover, qui lui avaient été données par un homme du renseignement américain qui avait à un moment été pressenti pour devenir le patron de la CIA, c'est-à-dire juste avant la création de la CIA sous Truman. Cet homme donne des photos à la mafia, et la mafia a toujours eu ses photos sur Hoover, et à sa façon tenait Hoover. Ce qui explique que Hoover ne se soit jamais lancé. Ça c'est ma théorie, c'est celle aussi de Sumners, d'ailleurs c'est celle de Sumners avant la mienne, mais j'y adhère, c'est que Hoover a essayé de complètement nier l'existence de la mafia avec cette offensive énorme sur le communisme pour éviter d'avoir à allouer des moyens contre la mafia.
Oui, disant d'ailleurs que le communisme est infiniment plus dangereux que la mafia, c'est d'ailleurs au communisme qu'il va s'en prendre. Comme il s'en est pris d'ailleurs pendant la guerre, vous l'avez dit, à un minuscule parti nazi américain, qui a été évidemment très étroitement surveillé par le FBI. En revanche, après la guerre, au début de la guerre froide, il s'en prend à l'ennemi, à ce qui est son ennemi juré, c'est le communisme.
The growing menace of communism arouses the House of Representatives Un-American Activities Committee. Among the well-informed witnesses testifying is James...
Mr. Hoover speaks with authority on the subject.
The Communist Party of the United States...
Le Parti communiste américain est une cinquième colonne. Leur but est de renverser le gouvernement. Le communisme est malfaisant. C'est une maladie, une épidémie. Et comme toutes les maladies, il faut le mettre en quarantaine pour l'empêcher d'infester ce pays.
Et c'était Hoover devant la célèbre commission McCarthy à l'époque de la chasse aux sorcières. Marc Duguin, quel était son rôle dans le McCarthyisme et ses relations avec ce fameux sénateur McCarthy ?
À mon sens, Hoover est l'instigateur et le créateur de McCarthy. C'est-à-dire que McCarthy n'aurait pas pu faire cette carrière sans avoir un soutien logistique très fort de Hoover, notamment au niveau des investigations, enfin de toutes les enquêtes qui ont été menées. Et McCarthy était l'homme de Hoover, et quand Hoover a considéré que politiquement il était temps d'en finir avec McCarthy, il l'a politiquement assassiné en quelques jours, sachant que McCarthy était lui-même, sur le plan personnel, dans des contradictions terribles. Enfin, dans les documents que j'ai retrouvés, on parle de sa pédophilie, on parle de...
Et puis surtout son alcoolisme.
De son alcoolisme considérable dont il est mort. Mais Hoover l'avait lâché avant qu'il meure.
Alors ce qui est extraordinaire, c'est que au fond on s'en est pris à un parti communiste quasiment inexistant aux États-Unis, en tout cas très faible, mais en fait sous le nom communiste on pouvait voir absolument n'importe qui. Justement dans votre livre, vous faites parler ainsi Clyde Tolson, le bras droit de Hoover, qui disait, enfin ça c'est votre roman, Marc Duguin, qui disait: nous avions réussi le prodige de ne jamais définir précisément ce qu'était le communisme. C'était un terme générique sur lequel nous nous appuyions pour dénoncer tout comportement, toute attitude, toute pensée, toute intention déviant. Le communisme, c'était tout ce qui ne respectait pas la croyance en un Dieu unique et blanc, veillant sur un État garant la libre entreprise. Alors c'était commode. Comme ça, c'est comme ça, au fond, qu'il s'en est pris. On s'en est pris à Charlie Chaplin, qu'on s'en est pris à un certain nombre de...
Hemingway, à Jane Fonda. C'était vraiment la définition du communisme, était liée à toute forme de subversion par rapport à un ordre moral qui était celui défini par un psychorigide qui était Hoover, c'est-à-dire de cet État américain tel que le conçoivent les gens du Sud. Aujourd'hui, les Texans ont pris le relais, mais Hoover était très très près de cette idéologie du Sud qui est finalement très WASP et qui exclut les Juifs, les Italiens et les Irlandais catholiques, d'où la haine de Hoover pour les Kennedy,
pour les Noirs aussi.
Et pour
Martin
les Noirs,
Luther King,
sûr, oui,
Martin Luther
sûr.
King était sa bête noire, si je puis dire.
Martin Luther King était sa bête noire, et comme Martin Luther King avait une vie sexuelle assez agitée, Hoover s'en est évidemment servi, et à mon sens, il a participé à l'assassinat de Martin Luther King.
Au-delà même d'ailleurs du simple renseignement ou des renseignements qu'il pouvait obtenir sur les gens que surveillait le FBI, il y avait une opération assez extraordinaire de désinformation qui était un programme du FBI qui s'appelait le COINTELPRO, le Counter Intelligence Program, au programme de contre-espionnage, qui a au fond été révélé après sa suppression par le Watergate, et qui consistait à non seulement à menacer des gens avec ce que l'on pouvait savoir sur eux, y compris dans leur vie intime, mais même à répandre de faux bruits. Ça, il a vraiment ruiné des carrières, des réputations, poussé des gens au suicide, Hoover et son FBI.
Oui, je pense à Wells, qui était secrétaire d'État sous Roosevelt, dont il révèle l'homosexualité et ruine sa carrière. Enfin, il y a eu comme ça, Eleanor Roosevelt qui faisait, sur laquelle il disait des choses absolument infâmes. Il a répandu comme ça, je pense que à part Goebbels et Beria, il n'y a pas d'équivalent à l'époque, et même dans l'histoire. Fouché est un enfant de cœur à côté de Hoover.
Sauf que la finalité n'est pas la même, hein. C'est quand même une démocratie, mais c'est ça qui est un peu surprenant. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire aussi, c'est justement qu'il ait pu rester en ayant évidemment des renseignements sur tous les présidents américains, et c'est sans doute la raison pour laquelle d'ailleurs il a été, après Roosevelt, après Truman, après Eisenhower et Kennedy, Johnson était le 7e président à reconduire Hoover dans ses fonctions à la tête du FBI, pour le plus grand plaisir de son directeur, qui à 73 ans avait largement dépassé l'âge de la retraite.
Merci, Monsieur le Président. Au terme d'une longue carrière au FBI, la chose la plus gratifiante qui me soit arrivée, c'est votre décision de m'en laisser la responsabilité.
Alors, the files of the FBI, c'est évidemment le fichier dont disposait Hoover, maintenu par 8 présidents des États-Unis. Un cas important, intéressant, que vous mentionnez très longuement dans votre roman, Marc Duguin, c'est celui des Kennedy. Je dis bien les Kennedy parce qu'ils s'intéressent d'abord, et ça c'est à la fin des années 30, au père Kennedy, à Joe Kennedy, dont la vie sexuelle intéresse particulièrement Edgar Hoover, parce qu'en fait il veut l'empêcher par ce biais de se présenter comme candidat à la présidence des États-Unis.
Parce que le père Kennedy, Joseph, qui vient déjà d'une famille fortunée, contrairement à la légende qui répand de l'Irlandais, qui arrive sans le sou et misérable à Boston, fait lui-même une fortune considérable. Et à l'époque, est l'homme de tous les tabloïds. Et en même temps, ce Kennedy, qui est un personnage turbulent et incontrôlable, commence à dévoiler ses ambitions politiques. Et là, Hoover mesure le danger à avoir Kennedy comme président, parce que le père Kennedy disait, de toute façon, avec le pognon que j'ai, je pourrais faire élire comme président mon chauffeur. Et donc, il craint qu'il n'arrive à se faire élire lui-même. Et là, il commence à le marquer et à l'observer jusqu'à ce que Roosevelt très habilement réussisse à l'envoyer comme ambassadeur d'Angleterre, dont il ne reviendra pas à temps pour les élections, en fait.
Alors, Joseph Kennedy, disiez-vous qu'il était capable de faire élire son chauffeur, fera élire son fils, hein, il a participé à ça. Et alors, là aussi, c'est quand même curieux, on sait bien, enfin, vous le dites, Kennedy, le président, le fils de Joseph Roosevelt, John Kennedy, détestait Hoover, mais il le garde encore parce qu'il sait des choses sur lui. Et il y a également un autre Kennedy, c'est Robert Kennedy, le frère du président, qui sera ministre de la Justice, qui va aussi être obligé de s'accommoder de Hoover. D'ailleurs, sur la photo de votre livre, sur la couverture de votre livre, il y a la photo de Hoover entre les deux Kennedy, entre John le président et le ministre de la Justice, Robert.
Mais quand, au moment des élections de 60, quand Nixon et Kennedy sont en lice pour la présidence, la première chose qu'ils font l'un et l'autre, c'est de dire que s'ils sont élus, ils maintiendront J. Edgar Hoover à la tête du FBI, ce qui montre l'importance de... Et vous parliez de Johnson tout à l'heure, Johnson dit la même chose, Johnson disait, de toute façon, je préfère avoir Hoover dans ma tente, pissant dehors, que dehors, pissant dans ma tente. Et donc, c'est comme ça qu'il l'accrédite. Et en fait, Hoover savait tout des Kennedy, y compris la relation très forte entre le père Kennedy et la mafia, en particulier au moment de la Prohibition. Et c'est lui qui connaît en fait toute la circulation des flux à l'intérieur de l'écheveau Kennedy, qui est un écheveau extrêmement difficile à reconstituer.
Sans parler de la vie sexuelle et du père et des deux fils, surtout de John
Kennedy avaient en commun d'être ce qu'on appelle des priapiques, c'est d'avoir une sexualité extrêmement compulsive qui les mettait dans des situations souvent assez délicates, dont évidemment se régalait Hoover, qui était évidemment le voyeur de l'Amérique.
Mais là, vous faites au fond le portrait dans votre livre, évidemment d'un homme redoutable, mais aussi d'une institution qui ressemble, et c'est étonnant dans une démocratie, à une police politique qu'on est habitué à voir en URSS à l'époque de Staline ou avec la Gestapo en Allemagne. C'est une police politique, le FBI, ce qui n'est pas sa vocation première pourtant.
Mais il y a deux personnes qui ont dit ça assez haut et fort. C'est Eleanor Roosevelt qui disait que le FBI c'était la Gestapo. Et même Truman, le président Truman, qui trouvait que le FBI allait bien, bien au-delà de ce qui aurait dû être ses missions. Et qui a entretenu d'ailleurs des relations très très difficiles avec Hoover, mais qu'il tenait encore pour une petite affaire financière au début de sa carrière.
Donnant une image quand même assez détestable de cette qui a quand même la plus grande démocratie du monde. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Norman Mailer, on l'a entendu au début de cette émission, Hoover a fait plus de mal aux États-Unis que Joseph Staline. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, plus de 30 ans après sa mort, il est mort en 72, le FBI, c'est encore le FBI de Hoover, Marc Duguin?
Ça, c'est difficile à dire. Est-ce que Hoover aurait été là, il aurait été capable, comme bon, on n'a pas parlé de son rôle dans Pearl Harbor, où il a su sans vraiment dire à Roosevelt ce qui se passait. Je sais pas aujourd'hui si le FBI fonctionne de la même façon, mais je pense que le cadre juridique du Patriot Act, en tout cas, permet de revenir à ces années noires qui sont celles de la surveillance des Américains sur leur territoire.
La malédiction d'Edgar, c'est le titre de votre livre, un livre passionnant, Marc Duguin, qui a été publié chez Gallimard. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire Le plus grand ripou d'Amérique de Jean-François Delassus. Ces références sont disponibles au 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Alain Arnstam, Jean-Philippe Jeanne, Claire Destacan, Claire Tesser et Cédric-Joseph Julien. À notre traductrice du jour, Anne Kobilac, et à notre réalisateur, Gilles Davidas.
Nous écoutions l'émission du 2 mai 2005, demain dans 2000 ans d'histoire, 1830, les véritables causes de la conquête de l'Algérie. 2000 ans d'histoire, tout l'été, 13h30, avec Patrice Gélinet. Pour sa 15e édition, le festival Les Vieilles Charrues du 20 au 23 juillet invite des artistes de talent et renommés à Carhaix dans les champs de la Verte Bretagne. France Inter, fidèle à son credo rock'n'roll, est sur place avec Laurent Lavige qui présentera en direct trois soirées spéciales qui s'inscrivent dans la continuité d'un été musical et ensoleillé pour un croisement pertinent de têtes d'affiche, coups de cœur et talents venus de tous les continents et horizons. Soirée spéciale avec Laurent Lavige de 21h à minuit avec les retransmissions des concerts de Placebo et Deus le 21 juillet, Orange Blossom, les Cowboys Fringants et Editors le 22 juillet, Tracy Chapman, Julien Clerc, Da Silva et Dionysos le dimanche 23 juillet, France Inter à Quimper sur 103.6, à Brest sur 95.4, toutes les fréquences sur franceinter.com.
Bien sûr, Millionnaire vous offre la possibilité de devenir millionnaire.
Oui.
Et pour ces 15 ans, Millionnaire vous offre en plus des centaines de milliers de tickets et des séjours de rêve dans des villas de rêve.
Oui, oui, oui.
Mais bon, Millionnaire ne vous offre pas la paire de tongs qui va avec.
Ah oui?
15 ans de Millionnaire, 15 ans de...
Oui.
De rêve.
Opération organisée à partir du 13 juillet 2006 jusqu'à épuisement des tickets, édition spéciale avec coupon bonus. Voir modalité au sein du règlement publié au journal officiel.
France Inter, 14h, les informations, Céline Asselot.
Après 8 jours de bombardements aériens, Israël et le Hezbollah s'affrontent désormais par voie terrestre. Des blindés israéliens sont entrés au Liban et les premiers combats avec les miliciens chiites ont fait 2 morts dans les rangs israéliens. Le Hezbollah se dit fermement décidé à stopper l'incursion israélienne au Liban. Et les attaques aériennes ne cessent pas. Pour autant, les tirs de roquettes du Hezbollah touchent toujours la ville de Haïfa au nord d'Israël. Et aujourd'hui, 55 civils libanais sont morts sous les bombardements de l'aviation israélienne. Et des bombes ont touché pour la première fois le cœur de Beyrouth, causant la panique dans la capitale libanaise sans faire de victimes a priori. Et devant la gravité de la situation, Jacques Chirac vient d'annoncer l'envoi de d'aide humanitaire française au Liban. Un avion gros porteur chargé de médicaments et d'eau potable va partir dans quelques heures de Paris. Nouvelle alerte au tsunami en Indonésie. Un séisme de 6,1 sur l'échelle de Richter a eu lieu ce midi et il pourrait déclencher un raz-de-marée.